Depuis que les vols spatiaux habités existent, les expérimentations scientifiques menées à bord offrent l'opportunité d'étudier des phénomènes impossibles à réaliser sur Terre. Et presque tous les domaines de la science sont concernés par ces expériences. Et les astronautes eux-mêmes sont des cobayes privilégiés pour les recherches en physiologie. C'est donc à ce contexte d'apesanteur et dans ce contexte d'apesanteur que l'on va s'intéresser aujourd'hui à la médecine spatiale dans le dossier de l'émission, avec un astronaute Jean-François Clairvoy et un médecin Franck Lo qui sont mes invités dans un instant. J'attends vos questions et vos messages sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une étude américaine qui montre qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de marijuana et la baisse de QI chez les adolescents, Axel Villard.
Et oui Mathieu, une étude qui va sûrement faire du bruit. Après 10 ans de suivi, les chercheurs ne trouvent aucun lien entre consommation de cannabis et baisse des capacités cognitives chez les adolescents. On y discute dans un instant avec nos invités.
Stéphanie Texier réalise cette nouvelle Tête au Carré qui a été préparée par Emmanuel Fournier. Et vous nous envoyez bien sûr vos messages pour le dossier sur le site en ce moment.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La pesanteur et la médecine spatiale, donc cet après-midi dans La Tête au Carré, mes invités pour en parler, l'astronaute Jean-François Clairvoy et le médecin Franck Lo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Jean-François Clairvoy. Est-ce qu'un astronaute, c'est avant tout un cobaye de luxe, prêt à tout pour la science ?
Alors, un astronaute, c'est avant tout un opérateur, donc la science à elle seule ne justifie pas les vols spatiaux habités. Mais quitte à aller dans l'espace, autant servir la science s'il le peut. Mmh. Et effectivement, bien que les astronautes ne sont pas obligés, ils peuvent refuser d'être cobayes d'une expérience. Oui. Les règles d'éthique nous expliquent bien que un astronaute n'est pas obligé d'accepter une expérience que les scientifiques sont intéressés de faire sur lui. Mais on se sent quand même le devoir de servir la science, et à condition qu'on nous explique bien tout ce qu'on va faire avec notre corps, parce que je peux vous dire, j'ai des collègues qui sont partis dans l'espace avec des capteurs placés un peu partout pendant la montée.
On aura les détails tout à l'heure. Hein.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire sur le corps humain, parce que les astronautes sont des corps sains, qui n'ont pas de maladie. Et pourtant, on en parlera, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent qui sont identiques à ce que sur Terre révélerait une maladie. Sur l'ostéoporose, sur la déficience immunitaire, les problèmes cardiovasculaires, etc.
Franck Lehaut, est-ce que les expériences sur la physiologie humaine réalisées dans l'espace ont vraiment fait avancer la connaissance scientifique ?
La réponse est clairement oui, car il y a eu déjà des centaines d'expériences scientifiques qui ont été réalisées, et notamment justement sur des domaines qui intéressent à la fois les perturbations de l'organisme qui surviennent en apesanteur, mais aussi à la surface de la Terre, comme l'ostéoporose, les chutes de tension, la régulation des troubles de l'équilibre, ou bien la fonte musculaire.
Allez, on en parle avec vous dans quelques minutes pour ce dossier sur la médecine spatiale, les conditions en apesanteur, donc avec les questions des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission. Et puis dans cette fin de Tête au Carré, on retrouvera également Pierre Barthélémy avec sa chronique improbable avec le cahier Sciences et Médecine du Monde. La consommation de cannabis pendant l'adolescence est-elle toxique pour le cerveau ?
Oui, alors je vais vous dire, en plus, le cannabis est un sujet que je connais très très bien. Mon fils est passé par là, figurez-vous.
Ah oui,
Charles Apollon a sombré dans la drogue à l'âge de 14 ans, le pauvre. Je lui disais, mais Charles Apollon, mais pourquoi ? Pourquoi fumes-tu autant ? Il me disait, mais maman, mais parce que les cigarettes ou hachiche, c'est bon, quel imbécile. Il faisait de l'humour, les frontés, ah oui, vraiment.
Voilà, Charles Apollon et tous les autres, 40% des jeunes Français de 17 ans disent avoir essayé, des chiffres en hausse d'ailleurs en 2015 selon l'Éducation nationale. Et dans ce contexte, une étude menée par des toxicologues américains devrait faire parler d'elle. Après avoir suivi pendant 10 ans plus de 2000 adolescents, dont de nombreux jumeaux, les chercheurs ont conclu que l'usage du cannabis n'a pas d'effet toxique direct sur le cerveau. Bonjour Laurent Carilla.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Et puis bonjour à vous Dominique Dupagne.
Bonjour.
Qui est avec nous dans ce studio. Dominique Dupagne, cette étude parue dans les PNAS aujourd'hui est pour le moins originale. Quel était d'abord l'intérêt de suivre des jumeaux ?
Bien, généralement, on trouve des liens statistiques entre la prise de cannabis et une détérioration intellectuelle à l'adolescence. Et on se bagarre pour savoir si c'est un lien de cause à effet ou si c'est juste une coïncidence qu'elle y a des autres facteurs qui participent à cela. Et donc, l'intérêt des jumeaux, en tout cas des vrais jumeaux surtout, c'est d'avoir des individus totalement identiques à l'épigénétique près, mais en tout cas très proches génétiquement. Et donc, de se dire que s'il y a une différence observée, si un fume du cannabis et l'autre n'en fume pas, c'est probablement cette fois-ci du cannabis et non pas une éducation différente à des facteurs de confusion qui vont fausser ces statistiques.
Laurent Carilla, que pensez de ces résultats ?
Déjà, l'étude est très très intéressante, la méthodologie est très très bien faite, mais je pense qu'il faut d'emblée poser des limites. Enfin, quand on lit le papier dans les détails, on voit bien que on ne voit pas l'impact de la consommation massive de cannabis, enfin la consommation élevée de cannabis chez les ados et donc leur impact sur leur fonction cognitive. Et là, le fait que le QI seul, bon, il n'y a pas d'impact, mais on sait que un QI est touché de manière multifactorielle, en fait. C'est-à-dire, il y a l'environnement, la famille, la maison, les amis, enfin, tous ces facteurs jouent. Donc, c'est une donnée qu'on connaît un peu. Je pense qu'on ne peut pas poser de conclusion définitive, en fait.
Les chercheurs confirment un lien statistique hein, entre un faible QI et une consommation de cannabis, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que le cannabis ne favorise ou ne favorise pas le déclin cognitif, Dominique Dupin.
Oui, c'est exactement ça. On a encore une fois la notion que c'est multifactoriel, la création de capacités cognitives, et il y a une agitation très forte autour de la responsabilité potentielle du cannabis. Il y a des études qui trouvent un lien statistique très fort, d'autres moins fort, mais comme toujours, et comme vous le savez ici, on en a beaucoup parlé à propos de ce que j'appelais les stats à la con, c'est pas parce qu'il y a un lien statistique qu'il y a un lien de cause à effet. Alors maintenant, bien évidemment, cette étude ne peut pas disculper le cannabis. Oui. Mais en tout cas, elle dit, attention, il n'y a pas de certitude. Bon, en plus, le cannabis, on peut s'en passer quand même. C'est pas comme si c'était un aliment, si vous voulez. Mais peut-être que il faut en profiter pour dire à des parents qui seraient totalement paniqués parce que leur fils, ils ont trouvé un joint dans la chambre de leur fils, que c'est pas idéal, certainement, qu'il fume du cannabis, mais que c'est pas pour autant qu'il va rater son bac.
Oui. Pourquoi votre prudence, justement, Laurent Carilla, qu'on entend bien dans l'interprétation, en tout cas dans votre lecture de cette étude?
Ça me fait peur toujours ce genre d'études. Après, on peut le cannabis est toxique chez l'ado, c'est clair. Les études d'imagerie cérébrale le montrent. Je veux dire, ça touche différentes structures du cerveau qui n'ont pas fini leur maturation. On sait que la maturation cérébrale finit autour de 20-25 ans. Et je pense que isoler une variable comme ça en disant cannabis et QI, bon, ok, on a vu sur des jumeaux, le jumeau non consommateur n'a rien. Je pense qu'il faut être prudent. Je pense que il y a un effet toxique net du cannabis chez le cerveau d'un ado qui est en pleine maturation.
Au-delà du kiwi, quels sont les autres dangers avérés et documentés liés à l'usage du cannabis, Laurent Carilla?
Et du kiwi.
Du kiwi.
Pas du kiwi. J'ai compris le kiwi.
Le kiwi, c'est le cannabis.
Les fonctions cognitives touchées sont plutôt les fonctions mnésiques, la mémoire de travail, etc., la mémoire attentionnelle, et les fonctions exécutives, comme prendre des décisions, etc., sont des variables. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils disent bien qu'ils n'ont pas mesuré ces variables-là. Et c'est des variables vraiment importantes pour l'apprentissage et les relations sociales.
C'est le tabac, finalement, le plus embêtant dans la consommation de cannabis?
Le tabac, c'est un cofacteur, en fait, qu'il faut prendre en compte. Le tabac altère aussi les fonctions cognitives, on a l'habitude de dire ça améliore la concentration, etc. Mais le tabac, de manière chronique en tout cas, altère les fonctions cognitives. Mais c'est deux problèmes, on va dire, c'est la concomitance des deux problèmes à prendre en compte en tout cas.
Ouais, Dominique Dupagne, on focalise beaucoup sur le cannabis, oui. L'alcool également est un vrai problème.
Je ne cherche pas, enfin cette étude ne cherche pas à réhabiliter le cannabis et moi non plus.
Non, on est d'accord, soyons clairs. On a bien compris.
Mais il faut simplement une échelle de gravité. C'est-à-dire, l'alcool est un fléau terrible, une des drogues les plus dures qui existent, qui est largement répandue, l'alcoolisme est un problème.
En vente libre.
Les parents voient leur gamin qui boit deux bières, ils s'en fichent, ils voient leur gamin qui fume un joint, ils sont terrorisés si vous voulez. Il faut relativiser. Le mieux, c'est bien évidemment de ne pas consommer de produits qui soient toxiques. Mais dans le cadre du récréatif, en effet, la question c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux? Il ne s'agit pas d'inciter les jeunes à fumer du cannabis, mais à dire à des parents qui seraient... Moi j'en vois régulièrement arriver à mon cabinet, docteur, on a trouvé un joint dans la chambre de notre fils. Genre, il voit déjà les seringues d'héroïne qui arrivent, alors que vous l'avez dit, il y a 40% des jeunes qui ont déjà plus ou moins essayé du cannabis, ou plus ou moins régulièrement. Donc il faut à la fois dédramatiser, il faut bien sûr pas inciter, hein, mais il faut dire ce n'est pas la condamnation absolue des neurones du gamin parce qu'il a fumé un peu de cannabis. On n'a pas de preuve de ça, on a des pistes.
Et par rapport à l'alcool, là encore.
Et l'alcool est le vrai fléau. Ouais. Et c'est vraiment un énorme problème qui revient en flèche parce qu'on, d'ailleurs, on a fait tellement peur aux gamins avec le cannabis que maintenant ils picolent en soirée parce qu'ils cherchent toujours quelque chose pour se mettre la tête à l'envers. Donc ça va être le produit légal et celui qui est le moins pointé du doigt.
Laurent Carilla, vous établiriez aussi ce classement en mettant l'alcool en premier?
Ouais, je fais pas trop de classement, mais c'est vrai que Dominique Dupagne a raison. L'alcool, c'est un vrai problème avec le binge drinking, mais il y a aussi d'autres consommations de produits. On voit les poppers, le MDMA qui revient en poudre, la cocaïne, etc. Donc ça reste des microphénomènes, mais ça reste des phénomènes existants. Mais oui, il faut mettre le cannabis. C'est vrai que il faut pas affoler les parents avec le cannabis, mais quand même le cannabis reste, je veux dire, le problème des ados en France actuellement en substance illicite. En tout cas.
Quels sont les risques d'addiction quand on consomme du cannabis? Ils sont importants?
Il y a un risque, ouais, il y a un risque de dépendance au cannabis, bien sûr. Quand on consomme tous les jours, quand on a des symptômes de manque, quand on augmente les doses. Ce matin, je voyais en consultation un jeune patient. ou des jeunes patients même, ils ont tous à peu près la même histoire, c'est que ils consomment une substance de manière régulière. Alors il y a le tabac qui entre en jeu, bien évidemment, parce qu'on fume pas des joints purs, on n'est pas en Jamaïque. Ils ont ces envies de consommer, ils pensent à consommer, ils ont des envies irrésistibles, et il y a des conséquences qui sont scolaires, qui peuvent être psychologiques et physiques aussi.
Allez Dominique, pour terminer.
Oui, juste une question pour vous, M. Carilla. Quand vous voyez des jeunes adultes, je dis bien des jeunes adultes en consultation d'addictologie, quelle est la proportion de ceux qui viennent pour une dépendance à l'alcool par rapport à ceux qui viennent pour une dépendance au cannabis?
Moi, si vous voulez, c'est extrêmement biaisé chez moi parce que j'ai des étiquettes, mais c'est vrai que, prenons plutôt dans un centre, c'est vrai que l'alcool vient en un avec le tabac, et en deux, j'ai envie de dire, il y a différents types de drogues, mais le cannabis reste présent chez les jeunes adultes, et en co-consommation aussi.
Merci beaucoup Laurent Carilla d'être venu nous éclairer à la Une de la Science. Merci beaucoup Dominique Dupagne, dont on peut d'ailleurs découvrir le portrait, on peut le signaler aujourd'hui dans le cahier Science et Médecine du Monde, justement, nos partenaires. Voilà, merci beaucoup Axel.
J'allais manger des kiwis.
Et à demain, bonne consommation. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, justement, pour nos invités, c'est une première. Des fleurs ont poussé dans la Station Spatiale Internationale après les salades en 2014. Le système de culture en apesanteur Veggie réitère l'exploit avec des plants de Zinnia. Mis en culture en novembre, les chercheurs espèrent obtenir des données sur les ramifications des racines en apesanteur et sur le pollen dégagé par les fleurs. Il s'appelle Sleeping Beauty, la beauté endormie. Après avoir passé 30 ans congelé à moins 20 degrés, ce minuscule tardigrade vient de se réveiller. Les tardigrades sont parmi les organismes les plus mystérieux et résistants de notre planète. Il aura fallu presque 2 semaines à Sleeping Beauty pour sortir complètement de sa torpeur, appelée également cryptobiose, et pour qu'il recommence à manger les algues mises à sa disposition. Les chercheurs suggèrent que ces animaux ont besoin d'un certain temps pour réparer les dégâts accumulés par leur corps pendant la congélation. Et puis pour terminer, une vidéo impressionnante, toujours dans le domaine du microscopique, un robot capable d'aider les spermatozoïdes à féconder un ovule. Mis au point par des nanoscientifiques allemands, ce robot guide en forme de spirale est piloté par un champ magnétique. Il s'enroule autour de la queue du spermatozoïde et le transporte tout simplement jusqu'à la surface de l'ovule. Un espoir pour tous les problèmes d'infertilité liés à la nage des spermatozoïdes et surtout une belle démonstration technique que vous pouvez découvrir en vidéo sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Allez, médecine spatiale dans un instant.
It's written in stone, my confidence goes when you come. I wish I could know how you melt in my snow, make my heart go wrong. I don't need your love, but the one that the sunshine on the winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. Singing Georgia, I'd do anything for ya. I know I lost a fortune, but at least I know I'm fully in. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing. I say you got me singing. I say you got me singing Georgia. She was my own, chased the rabbits north, but all she wants is carrots. I'm just trying to be even, she don't even. Eventually I lose my balance. I don't need your love, but I'ma take it like you are through designer clothes. I don't need your drug, but I'm feeling, hoping I don't overdose. You got me singing Georgia, the fortune, but at least I know I'm fully in. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing. I say you got me singing. I say you got me singing Georgia. I just hope in the money, 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 money. Just hope you ain't the money, 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 money. Love me, honey. I just
so be the money, 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 money. Love me, honey. I just hope he ain't the money, 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 money. Love me, honey. You got me singing Georgia.
Six Das Auteur avec Georgia.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Apesanteur et médecine spatiale donc cet après-midi dans le dossier de l'émission. Mes invités Jean-François Clairvoy, astronaute pour l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et PDG de Novespace. C'est une filiale du CNES en charge des vols paraboliques sur l'Airbus A300G. Et puis Franck Lehaut, vous êtes médecin, spécialiste en médecine spatiale, instructeur justement des vols en apesanteur dans l'Airbus 0G. Et vous publiez ensemble l'histoire de la conquête spatiale chez Vuibert avec les auditeurs qui nous rejoignent, les questions et les messages franceinter.fr et les réseaux, le mot-clé l'attaque. Franck Lehaut, quel est votre rôle en tant que médecin dans le domaine de l'aérospatiale exactement ?
Écoutez, moi je suis un médecin qualifié en médecine aéronautique et spatiale, donc mon rôle déjà pour les pilotes c'est de leur délivrer des aptitudes. Mmh. Et puis quand j'ai la chance d'avoir la fonction de médecin de vol dans l'Airbus 0G,
ouais.
Notre fonction est de surveiller que sur le plan de l'organisme et de la tolérance au vol, tout le monde puisse bénéficier d'un avis ou d'un soutien médical à tout moment.
Et vous-même, vous les supportez bien les vols en apesanteur ?
Oui, je les ai toujours très bien supportés.
C'est vrai, pas de mal de l'espace. Absolument rien.
À aucun moment. Non. Mais d'ailleurs, on a la possibilité parfois d'être un peu malade au début de ce métier. Et puis finalement, avec l'expérience, les choses rentrent dans l'ordre.
Jean-François Clairvoy, les astronautes, justement, pendant toute la phase de mission pour les vols habités, sont ultra suivis par les médecins ?
Alors, ça dépend de la mission. En fait, avant le vol, on a une visite médicale d'aptitude pour vérifier à quelques jours du décollage que tout va bien. On a d'ailleurs un petit entretien de quelques minutes le jour même du décollage.
Ouais.
Et lors des vols courts que j'ai effectués, des vols courts en navette spatiale...
C'est-à-dire combien de jours à peu près ?
3 fois une dizaine de jours. Ouais. Il était programmé 1 quart d'heure tous les matins de conférences verbales cryptées entre notre médecin d'équipage qui est au sol et nous. Et comme tout se passait bien, c'était tout le temps 15 minutes à blaguer, à raconter des histoires drôles.
Et pourtant, la sélection d'un astronaute se fait sur ses qualités physiques, avant tout.
Alors, au départ, la sélection se fait en plusieurs étapes. On commence par celle qui coûte le moins cher, c'est analyse des dossiers médicaux, de l'aide de motivation. Mmh. On termine par les étapes les plus coûteuses, dont l'expertise médicale.
Oui.
Parce que l'expertise médicale nécessaire pour délivrer l'aptitude au vol spatial la première fois à un individu, c'est une semaine à temps plein tous les jours pour passer dans tous les domaines. Et ça coûte assez cher. Donc, c'est lorsqu'il en reste seulement quelques dizaines qu'on arrive à cette étape. Et effectivement, on est scruté sur tous les angles.
Ouais. Alors, quels sont les tests que vous subissez dans les premières phases de sélection? Moi, je me souviens Claudie Ignoret qui nous avait décrit, mais c'est affreux en général ce qu'on vous fait subir.
Alors, elle n'a pas connu de plus affreux, je crois. Ah, le plus affreux, c'est pour les hommes. Mais effectivement...
Il y a une vraie différence entre les sexes?
Il y a quelques tests qu'on peut pas faire passer aux femmes pour des raisons anatomiques, mais sinon, on apprend beaucoup sur notre propre corps humain. C'est très enrichissant personnellement. Je connais mon corps humain comme jamais j'aurais pu apprendre ses particularités si je n'avais pas été astronaute. Il y a quelques tests qui sont pénibles. Ce sont les tests, par exemple, l'urographie veineuse. Donc c'est une radiographie du corps dans lequel on a injecté de l'iode.
Ouais.
Et avant, il faut boire beaucoup d'eau et ça fait très bizarre. Il y a aussi, par exemple, l'hyperglycémie provoquée. On vous demande de boire énormément d'eau très, très sucrée. Et régulièrement, on regarde la concentration de sucre dans le sang pour voir si le pancréas, enfin les différents organes en charge de réguler la concentration du sucre fonctionnent bien.
Ouais.
Il y a, par exemple, le test calorique. C'est envoyer dans le canal auditif d'une oreille sans rien faire à l'autre de l'eau très chaude ou très froide, et c'est extrêmement douloureux. On a envie d'arracher l'instrument de la main du médecin.
Mmh.
Mais à part ça, on se sent un peu quand même, c'est vrai, être animal de foire.
Ouais.
Mais quand à la fin on nous délivre l'aptitude, on est content.
Bon, Franck Lehaut, un astronaute, c'est un homme pas tout à fait comme les autres du point de vue physiologique ou pas ?
Les critères de sélection ont quand même beaucoup évolué depuis les sélections qui avaient lieu dans les années 60 pour les programmes Mercury et Gemini, où là, carrément, il fallait être un surhomme hein, pour passer les sélections. De nos jours, maintenant qu'on a ouvert le recrutement à des métiers variés, comme les métiers d'ingénieur, comme les métiers de médecin, et que ce ne sont plus uniquement des pilotes de chasse, en fait, un état de santé correct est jugé suffisant pour partir dans l'espace. Il ne faut pas être un marathonien, il ne faut pas avoir une physiologie extraordinaire pour être sélectionné.
Écoutons un nouvel épisode de l'Académie des astronautes consacré justement aux conséquences sur la santé du séjour dans l'espace. C'était sur Euronews en août 2015.
Bonjour, je suis Volker Damann. Je dirige le service de médecine spatiale. Entrons dans la salle de contrôle d'où nous surveillons l'état de santé des astronautes. Le programme qui suit immédiatement le vol dure 21 jours, en gros 3 semaines. C'est une période chargée où l'aspect médical est la priorité absolue. La pesanteur, ça paraît génial, amusant, mais évidemment, comme il n'y a pas de haut et de bas, les muscles cardiaques n'ont pas besoin de faire monter le sang jusqu'au cerveau. Et donc, comme tous les muscles du corps, le muscle cardiaque se dégrade parce qu'on ne le fait pas tellement travailler. On doit réapprendre les choses. Dans l'espace, on doit reprogrammer son cerveau pour l'adapter à la pesanteur. C'est la même chose quand on revient sur Terre. On doit reprogrammer son cerveau.
Voilà, c'était Volker Damann qui dirige le service de médecine spatiale à l'ESA, donc à Cologne, en Allemagne. Franck Léo, qu'est-ce que ça englobe exactement, donc la médecine spatiale?
La médecine spatiale englobe, j'allais dire, tous les domaines de la médecine, avec une priorité pour les systèmes physiologiques qui sont le plus atteints en apesanteur, ceux qui vont poser des problèmes, par exemple, quand on va arriver sur une autre planète ou simplement retour sur Terre, et qui sont notamment la décalcification osseuse, la fonte musculaire, les troubles de l'équilibre, mais aussi l'hypotension, les chutes de tension. Donc c'est focalisé sur ces domaines-là, mais de toute façon ça couvre beaucoup d'autres domaines comme l'immunologie, comme le sommeil, comme les troubles visuels dont on s'aperçoit assez récemment qu'ils sont quand même préoccupants. J'allais dire, toutes les spécialités médicales sont représentées dans la recherche spatiale.
Alors on va évoquer ensemble certaines d'entre elles. Jean-François Clairvoy.
Pire qu'une différence importante aussi, c'est que comme en médecine du sport, la médecine spatiale traite de sujets sains, qui ne sont pas malades. Alors que la plupart des médecins au quotidien traitent des personnes qui viennent les voir parce qu'elles ont une ou l'autre des maladies.
Et... Sauf que, est-ce qu'après autant de vols, trois en l'occurrence pour vous, Jean-François Clairvoy, est-ce qu'on reste un être sain et...
Oui, on est suivi et on n'est pas réaffecté.
Sans séquelles du tout?
Si on est réaffecté à une mission spatiale, après 2-3 vols et puis même certains 6 vols, 7 vols, c'est bien qu'ils ont récupéré leur aptitude de sujet totalement sain pour le vol.
Mais justement, vous, votre dernier vol, c'était en 99. Est-ce que depuis, certaines choses ont pu se manifester dans votre organisme ou pas liées directement à vos voyages spatiaux?
Alors, tous les astronautes sont suivis, même après leur dernier vol dans l'espace, s'ils le désirent. Tous les ans, on passe une visite médicale d'aptitude au vol spatial. Et sur les vols courts que j'ai effectués, 3 fois une dizaine de jours, il n'y a pas eu d'impact qui m'affecte définitivement. Mmh. Par contre, sur les vols de longue durée, on trouve un niveau de décalcification, une perte de densité osseuse de quelques pourcents qui est irréversible. Ouais. On ne revient pas à 100% de la densité osseuse avant le premier vol.
Est-ce qu'on peut partir à tout âge voler en apesanteur, justement, Franck Léo, a priori?
Oui, on peut partir à tout âge voler en apesanteur. Nous, ici en France, pour le baptême d'apesanteur que nous offrons au public, nous avons fixé le seuil à 18 ans. Et il n'y a pas de limite supérieure d'âge. C'est la physiologie de la personne qui compte.
L'apesanteur, justement, effectivement, dans ces conditions, le corps est mis à rude épreuve. On va le voir avec vous. Mais pour certains, c'est plutôt euphorisant, si on en juge par ce document de 1971, avec les astronautes présents à cette époque sur la Lune. C'était Apollo 15.
Instruits par les missions précédentes, les astronautes se montreront de plus en plus à l'aise dans leurs déplacements, sans redouter les chutes. Il est vrai qu'avec la faible pesanteur lunaire, un sixième de celle de la Terre, ils ne pèsent guère, malgré leur lourd équipement, qu'à peine 30 kilos. Alors, la bonne humeur règne. Et sous les yeux de millions de téléspectateurs, Ils se livreront à des expériences originales, comme cette théorie de Galilée, selon laquelle, dans le vide, le champ de gravité est le même pour tous les corps, ici un marteau et une plume.
Voilà, petit clin d'œil effectivement à Galilée, donc 1971. Là, c'est l'effet euphorisant de la pesanteur, Jean-François Clairvoy.
Ah oui, et puis alors de la pesanteur réduite. Sur la Lune, la pesanteur est pas nulle, mais elle est réduite. Et John Young et Charlie Duke se sont prêtés à ce qu'ils ont appelé les Moon Olympics, c'est-à-dire le concours du saut le plus haut, en scaphandre. Donc sur Terre, ils auraient pesé 180 à 200 kilos, et sur la Lune, ils faisaient des bonds de plus d'un mètre.
C'est ça, parce qu'on pèse quoi, 30 kilos à peu près
un
quand on est sur la Lune
poids, un sixième de son poids terrestre.
Un sixième, ouais. Allez, on se retrouve dans un instant pour voir effectivement les effets de la pesanteur sur l'organisme, certains organes en particulier qui vont nous intéresser avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
Inutile de me chercher, parmi les morts. Inutile de m'adorer. Purin d'idéaux où tout fabrique des sauts par la chose immuable. Je n'ai plus confiance en vous. Le coordinaire des choses me va comme un incendie. Tous les boucs sont enterrés.
Incendie, Jean-Louis Murat sur France Inter.
Bienvenue à bord.
La tête.
Vous avez pris un petit déjeuner?
Pardon?
Glucides, protéines, lipides, ni caféine, ni sucre. J'aime bien savoir que mes effectifs maintiennent en forme leur système cardiovasculaire.
Sur France Inter.
L'astronaute Jean-François Clairvoy et le médecin spécialiste de la pesanteur Franck Léo sont mes invités autour de ce livre, Histoire de la conquête spatiale, Jean-François Clairvoy, où vous revenez sur toutes les grandes étapes, justement.
Oui, c'est une idée de Franck de lancer ce livre. Et puis, comme on l'avait déjà travaillé sur plusieurs autres livres auparavant, il m'a demandé, est-ce que tu veux bien, avec moi, co-écrire un livre qu'on va faire d'une façon très facile à lire. Chaque histoire fait moins d'une page. Et il y a une étape clé datée, il y a une date de toute l'histoire des vols habité. Histoire de la conquête spatiale, sous-entendu habité, avec des encarts qui expliquent la vie, le travail.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, là, on voit vraiment ce qui se passe, alors d'un point de vue physiologie précisément, sur les organismes des spationautes. C'est ce que vous aviez envie d'expliquer, Franck Léo, pour voir justement les effets de la pesanteur sur le corps.
Effectivement, puisque les principales dégradations de l'organisme concernent le système osseux, puisqu'il faut savoir que dans l'espace, on va perdre en un mois l'équivalent de ce qu'on perdrait après l'âge de 50 ans sur Terre en un an. un mois, un an. Et avec de grandes variations individuelles, puisque au bout de 6 mois de mission dans l'espace, la moyenne de perte osseuse sur une tête de fémur ou une vertèbre, c'est de 10%, mais il y a des extrêmes qui vont jusqu'à 20%.
Ouais.
On a aussi la fonte musculaire, puisqu'on n'a plus à lutter pour se maintenir en situation érigée, donc une fonte musculaire qui concerne les muscles des mollets, des cuisses et puis les muscles lombaires.
Cette fonte, elle opère très rapidement, justement, quand on est dans l'espace ?
Oui, cette fonte, elle commence très très vite, puisqu'on a fait des biopsies musculaires et on voit déjà sur certaines fibres musculaires isolées au microscope électronique que leur taille diminue en l'espace de 5 jours.
Ah oui, donc ça va très vite et on le sent vraiment très rapidement aussi sur l'organisme, Jean-François Clairvoy ?
On le voit déjà sur le corps de ses collègues, on les trouve beaucoup plus amincis sur la partie basse du corps.
Ouais.
Lié à l'effet sanguin, Franck pourra en parler, l'afflux excessif de sang vers le haut du corps, leur tête est bouffie. Et lorsqu'on fait l'exercice, on se sent pas exactement dans les mêmes sensations physiques parce qu'on n'a plus à s'opposer à son poids. Donc pour faire du sport, il faut se plaquer sur le tapis roulant ou faut s'accrocher aux pédales du vélo. Mais c'est vrai que...
Donc vous avez des drôles de tête quand même dans l'espace.
On a des drôles de tête, on a les jambes de poulet et les jambes s'affinent non seulement par la diminution du volume sanguin dans les jambes, mais par atrophie musculaire. Et on nous interdit de faire des sports de résistance comme le squash ou le tennis pendant quelques semaines après l'atterrissage, sinon la déchirure musculaire ou du tendon est inévitable, il est assuré à 100%.
Ouais. D'où l'idée aussi de vous faire faire du sport dans l'espace, ça c'est vraiment quelque chose d'obligatoire dans les protocoles.
Sur les vols de courte durée, c'est pas important du tout. Mmh. Donc à la limite, c'est plus pour l'aspect psychologique et se sentir bien, sentir qu'on a toujours un corps capable d'efforts importants, notamment si on doit faire des sorties dans l'espace. Par contre, sur les vols de longue durée, c'est primordial si on veut pas revenir comme un sac de patates inerte à l'atterrissage.
On fait beaucoup de vélo en particulier, Franck Léo, dans l'espace ?
Dans l'espace, il y a 2h30 une tranche horaire de 2h30 qui est allouée à la pratique sportive. Mais cette tranche horaire de 2h30, elle comprend l'habillage, quand on enfile la tenue pour faire du sport, la mise en œuvre des machines, et puis après le changement de machine, et puis après la douche, etc. Donc en pratique, les astronautes font à peu près 30 à 45 minutes de vélo par jour sur la bicyclette ou bien de tapis roulant, et ils font des exercices musculaires contre résistance sur une machine de musculation environ 1 heure par jour.
Alors dans le livre, on remplace les haltères par des ressorts,
c'est ça,
ou des tendeurs.
Ouais. Vous nous apprenez qu'il y a des situations assez cocasses justement liées au sport, surtout quand on roule près du hublot, c'est ça, avec cette impression que tout d'un coup on est carrément à 28 000 km/h à peu près, la vitesse de la station spatiale.
Ah oui, ben lors de mon premier vol, nous volions sur le dos quasiment en permanence. On avait installé le vélo en travers du cockpit supérieur. Et comme la navette était elle-même sur le dos et en travers de son défilement orbital autour de la Terre, on voyait la Terre défiler dans le sens de notre pédalage. Donc on avait l'impression vraiment que c'était notre pédalage qui nous faisait nous déplacer sur la Terre qui défilait sous nos yeux. C'était fantastique. Ouais. J'écoutais la musique du Grand Bleu en même temps et c'était superbe.
On transpire de la même manière également dans l'espace ?
Oui, on transpire. On monte aussi en rythme cardiaque beaucoup plus haut. J'ai un collègue qui est monté à plus de 200 pulsations minute, qui était un cycliste entraîné au sol. Et pour la petite anecdote, la première fois qu'un collègue de mon premier vol a commencé à faire du vélo, il était torse nu. Il a commencé à développer une couche de transpiration liquide collée à son dos.
Une sorte de flaque sur le dos, comme ça.
Comme une flaque.
Ouais.
Et un collègue l'a cogné sans le faire exprès, et la flaque a traversé la cabine comme une flaque d'eau et la fille qui était à bord
s'est pris sa flaque de sueur dans le visage.
S'est exclamé « Ah, t'es dégueulasse !»
Voilà, c'est extrêmement agréable.
Et depuis, on nous a obligés de porter des t-shirts pour l'exercice.
Franck Léo, il se passe vraiment des choses étonnantes parce que le corps grandit aussi de plusieurs centimètres dans l'espace.
Et oui, parce que soumis à la gravité terrestre, dans l'état de pesanteur, on s'attend bien à ce que les vertèbres se tassent les unes sur les autres. Et finalement, quand on se retrouve en état d'impesanteur, il n'y a plus cette lutte contre la gravité. Et effectivement, les vertèbres s'éloignent un tout petit peu les unes des autres et on peut prendre quelques centimètres, jusqu'à 5 centimètres de taille.
Mais
au retour sur Terre, c'est un gain qui est vite reperdu.
Ça ne reste pas.
C'est triste, on ne grandit pas durablement.
Ouais. C'était votre cas, Jean-François Clairvoy, ou pas ? Vous avez pris quelques centimètres ?
Alors, je n'ai pas grandi peut-être de l'ordre de quelques millimètres. Ça va de quelques millimètres à quelques centimètres. Par contre, ce problème aussi s'accompagne de douleurs dorsales pour certains astronautes très très fortes qui nécessitent un harnais spécial pour se forcer en position fœtale pendant le sommeil. Parce que les muscles dorsaux cambre beaucoup plus la colonne en continu quand elle est libérée de toute contrainte d'absence de pesanteur. Et certains astronautes reviennent avec un mal de dos très fort, se plaignent en orbite et ouais. Il faut des exercices et des ceintures, des harnais particuliers pour forcer la colonne à garder une bonne géométrie. Et puis de même pour éviter la décalcification et la perte de muscles. Franck allait probablement le dire, on a des survêtements particuliers équipés de tendeurs intégrés dans la combinaison. Mmh. Qui force la compression des segments du corps humain. Donc, vous vous battez contre votre vêtement pour vous déplacer, pour allonger le bras, allonger la jambe. Et cette compression continue, forcée par des tendeurs inclus dans les tissus de nos vêtements pour compacter le corps, permettent de minimiser un peu la perte d'atrophie musculaire.
Mais les scaphandres sont prévus aussi pour cette extension du corps hein.
Alors, il faut le prendre en compte quand on règle les scaphandres, oui, c'est très important. C'est arrivé déjà que des astronautes développent des douleurs pendant leur sortie dans l'espace parce que le scaphandre était réglé sans prendre en compte suffisamment d'allongement de la colonne dans l'espace.
Vous vous souvenez de Titov en 1965
Vladimir Titov.
Alors, Germany, voilà, c'est ça. 1965, qui lui souffrait apparemment du mal de l'espace, comme on va le découvrir dans ce document.
Alors que de jour en jour, le compte à rebours du départ pour la Lune s'approche, et que les cosmonautes sont soumis aux ultimes expériences avant leur H, une information dont la portée peut être très sérieuse vient soudain d'être diffusée. Glenn et Titov sont tous les deux tombés, victimes semblerait-il l'un et l'autre de troubles qui seraient imputables à leur vol sidéraux. Nous avons consulté à ce propos le docteur Gérard Juin, expert de l'OMS en médecine aéronautique et spatiale.
Pour l'instant, je pense que les médecins de l'espace se penchent surtout attentivement sur tout ce qui peut arriver à un cosmonaute afin de prévoir même l'impossible, mais ils ne cherchent pas actuellement à déceler tout particulièrement des troubles de l'oreille, comme on a bien voulu le dire dans certaines dépêches. Il y a eu des phénomènes certes troublants, et en particulier en ce qui concerne le russe Titov, qui a été malade pendant même son voyage spatial, mais il a souffert du mal de l'espace, du mal de l'air, et il l'a décrit, dû à une vibration excessive de sa capsule. Mais depuis lors, tous ces gens, s'ils avaient eu des lésions sérieuses de l'oreille, vous l'auriez vu, puisqu'on les a aperçus de par le monde allant se promener, et manifestement marchant sans le secours de personne et sans le secours d'aucune canne.
Voilà, 1965, Franck Léo. Il y avait des voyages préparatoires à l'arrivée sur la Lune. Hein.
Ça, c'était pour le côté américain, effectivement. Les missions Mercury, puis les missions Gemini, où on traînait des hommes séparément, puis à deux, puis à toutes les manœuvres ou rendez-vous spatiaux avant la mission d'Apollo à trois sur la Lune.
Est-ce que le mal de l'espace est très similaire, au fond, au mal de mer sur Terre ?
Le mal de l'espace, c'est l'un des maux des transports qu'on appelle cinétose, mais il est différent. En fait, sur Terre, on connaît la position de notre corps par la concordance des informations que nous donne la vision, l'oreille interne et tout un tas de capteurs qui sont situés dans nos articulations et au niveau de la peau. En apesanteur, il va se produire une discordance, un conflit d'informations parce que notre oreille interne, certaines structures de l'oreille interne ne fonctionnent plus.
Il y a une déformation qui est liée aussi directement à l'apesanteur sur l'oreille interne ou pas ?
C'est pas une déformation, c'est plutôt que certains appareils qui nous renseignent sur la position de la tête dans l'espace ne fonctionnent plus, certains capteurs au niveau de l'oreille interne. Par exemple, dans l'espace, si vous penchez la tête en avant, votre vision vous confirme que vous penchez la tête, mais votre oreille interne, elle, ne vous donne aucune information. Donc, pour l'oreille interne, vous n'avez pas changé votre position. Et ça, le cerveau déteste recevoir des informations contradictoires et il déclenche un mal de l'espace dont les symptômes peuvent être au début comme tous ceux des maux des transports, un peu de nausée, de pâleur, de sueur, des tas de malaise, mais qui peut être assez important et invalidant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne programme jamais de sortie dans l'espace dans les deux premiers jours qui suivent l'arrivée dans une station ou dans l'espace, parce qu'on craint que les astronautes puissent encore être malades.
Et avoir une nausée à l'extérieur dans un scaphandre.
Voire des vomissements. Oui. Puisque le mal de l'espace a tendance quand même à disparaître statistiquement au bout de 48 heures.
Et puis c'est pas c'est pas les mêmes personnes qui sont malades du mal de mer sur Terre ou qui sont atteintes du mal de l'espace. Moi j'ai le mal de mer si je prends pas de médicaments contre le mal de mer et j'ai pas du tout eu le mal de l'espace. Alors que j'ai des collègues qui ont été très malades dans l'espace, qui eux peuvent manger leur sandwich pas forte odeur de mazout dans le cadre de leur bateau, pas forte tempête.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sélectionne plus les astronautes sur leur capacité à tolérer des tests, les tests horribles de renversement, etc.
Qu'on leur faisait. Il y avait des tabourets tournants, voilà. C'est ça, les Russes aimaient beaucoup ça, il paraît. Hein.
Parce qu'on sait que ce mal de l'espace, on ne peut pas le prédire. Un astronaute peut être malade dans l'espace alors qu'il n'est jamais malade sur Terre. À l'inverse, un astronaute peut avoir le mal de mer et ne sera jamais malade dans l'espace. C'est tout à fait imprévisible.
Sortie extra-véhiculaire, comme dans Gravity.
Oui, commandant Kowalski, oui. Oui, commandant Kowalski, je suis là, je suis là. Oui, oui, je vous reçois, je suis là. Je suis là.
Allumez votre lampe.
Ma lampe.
Allumez votre lampe.
Ah oui. Je... Voilà. Voilà. Ça y est, ça y est. Je suis là.
Votre situation.
Ça va, je vais bien.
Votre situation, je vous vois au stade.
Zéro, 0,25 bars.
Votre O2, donnez-moi votre O2.
L'oxygène descend. Il descend vite, ça va vite. 9, non, 8, 8
pour cent. Vous respirez trop vite, vous brûlez de l'oxygène. Et ça, on préfère éviter. On va se détendre un peu, c'est compris?
Oui, pardon. Oui, j'ai compris.
Bien, je suis presque.
Faites vite.
On retourne à la navette. Ça vous va comme projet? Oui.
Putain.
Roger, 5 sur 5.
Voilà, Jean-François Clairvoy, Sandra Bullock en mauvaise posture. On se demande comment elle n'a pas eu plus de nausées d'ailleurs, quand on se souvient du film à ce moment-là.
Ah, vous savez, mais elle en a au début du film, mais elle ne va pas jusqu'au vomissement. Mais c'est vrai que dans chaque équipage qui part dans l'espace, il y a en moyenne un astronaute sur 3 ou 4 qui vomit. Ouais. Et j'ai un collègue, il est arrivé dans l'espace, il disait « If this is space, this is not fun ». Si c'est ça l'espace, bah, c'est pas drôle. Mais dans tous les cas, il faut le dire, Franck l'a dit, au bout d'un ou deux jours, tout le monde se sent très bien.
Oslo, y'a le feu même alors. Ici je brûle de désir, pas comme il faut. Assez fou pour porter seul le flambeau. Oslo. Y'a le feu même alors. Babylone, j'ai perdu mon cœur. D'artichaut. Calciné mes veines au chalumeau.
C'est incroyable d'être ici maintenant.
Chris Hadfield a toute sa tête, mais n'a plus tout son corps. Les 146 jours dans l'espace font leur effet. Son corps a vieilli prématurément. Une situation cependant réversible. Il a mal au dos, il a des pertes d'équilibre, il se cogne partout, il doit même prendre sa douche assis. Muscles atrophiés, ostéoporose, il porte même une gaine pour faire remonter le sang au cerveau.
Pour moi, c'est juste difficile à marcher. Et je ne suis pas prête à courir. Mais peut-être vers quelques mois, je peux mieux reprendre.
Pour les prochains mois, il sera le cobaye de nombreux médecins et scientifiques qui vont mesurer et analyser son retour à la normale.
Voilà, Chris Asfield, Jean-François Clairvoy, c'est votre confrère québécois qui jouait de la guitare aussi dans l'espace. Hein.
Il a été, oui, on est de la même promotion, il jouait de la guitare depuis très longtemps.
C'est ça,
ouais. Et
il a été très suivi par les réseaux sociaux. Il est resté 146 jours quand même, ce qui explique aussi son retour plus compliqué peut-être que vous qui avez fait trois missions mais moins longues. Hein.
Ah mais depuis 15 ans, les seuls vols habités sont des vols vers la Station Spatiale Internationale en coopération avec le Canada, le Japon, l'Europe, la Russie et les Américains. Et à part quelques exceptions, ce sont tous des vols de 6 mois aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ça a été une époque 4 mois, maintenant c'est 6 mois. Et on les maîtrise suffisamment bien puisqu'il y en a plusieurs qui revolent plusieurs fois 6 mois.
C'est ça.
Certains ont volé 5 fois 6 mois. À chaque fois, ils récupèrent l'aptitude. Ils savent à l'avance comment leur corps va se modifier dans l'espace et qu'est-ce qu'il faut faire au retour pour reprendre une vie normale sans risque pour sa longévité terrestre.
Mais c'est ça. Donc il y a quand même cette plasticité du corps, Franck Léo, qui fait que malgré les bouleversements, on l'entend bien dans l'organisme, il y a un retour qui s'est plus ou moins bien quand même.
Voilà, avec des échelles de temps qui sont variables selon les organes atteints. Par exemple, les troubles de l'équilibre se corrigent en quelques jours, les troubles musculaires se corrigent en quelques semaines, les troubles osseux, il semble que ce soit beaucoup plus long, et peut-être qu'on n'arrive jamais véritablement à corriger les anomalies osseuses. Ouais. Voilà, il y a une récupération qui se fait assez rapidement et le tableau l'a décrit par Chris Hadfield, c'est celui des premiers jours au retour de vol. Hein.
Le risque cardiovasculaire, il est sérieux en vol ou pas?
Oui, on est en train de penser que l'apesanteur serait un facteur de risque cardiovasculaire de plus. Tout comme le tabac, l'hypertension, etc. Parce que les cellules qui tapissent l'intérieur des artères sont perturbées par l'état d'apesanteur et deviendraient un petit peu plus perméables au dépôt de cholestérol. Ceci favoriserait l'artériosclérose.
Cela dit, on sait aujourd'hui que pour des premiers voyages vers Mars, des voyages qui duraient typiquement 8-10 mois maximum, aller puis retour, après gravité réduite sur Mars, on sait faire. Mais pour les voyages beaucoup plus longs, de plusieurs années en apesanteur, là, il faut réinventer quelque chose.
Faudrait seulement 8 à 10 mois pour aller sur Mars?
Oui, c'est le cas de toutes les sondes interplanétaires partant vers Mars. On attend tous les 2 ans et 2 mois. Il y a un moment idéal de lancer pour que le vol dure entre 6 et 10 mois, 6 minimum, 10 mois maximum. Et actuellement, il y a 2 astronautes, un russe et un américain, qui sont en orbite pour 1 an. Ils sont partis en mars dernier, ils reviennent qu'en mars prochain.
Daniel aimerait savoir comment font les astronautes pour uriner en apesanteur. Question très importante, bien sûr, Jean-François Clairvoy.
Alors, il y a 3 façons. Soit normal, donc vous allez aux toilettes, vous tenez debout en vous mettant les pieds dans des cale-pieds et vous urinez dans un entonnoir dans lequel l'air, les liquides sont aspirés comme dans un tuyau d'aspirateur.
D'accord.
Soit vous le faites pour rigoler, donc vous le faites à l'envers, la tête en bas, parce qu'il n'y a que dans l'espace qu'on peut faire pipi la tête en bas.
C'est rigolo, hein.
Soit, c'est arrivé rarement, mais c'est arrivé, vous n'y arrivez pas et vous demandez à des collègues, par un sondage urinaire, de monter une sonde jusqu'à la vessie pour vider la vessie. C'est arrivé que des astronautes n'arrivent pas à ouvrir la valve, le sphincter.
C'était favorisé aussi par l'utilisation de médicaments contre le mal des transports, dont les effets indésirables peuvent être de provoquer une rétention d'urine.
Thierry demande, est-ce que la dépression est constatée après des voyages spatiaux, Franck Léo?
Le plus grand exemple qu'on puisse avoir, c'est celui de Buzz Aldrin, qui est le deuxième marcheur lunaire, qui a eu une vie un petit peu difficile au retour de la Lune. Mais je crois pas qu'on puisse...
Parce qu'il avait été le deuxième peut-être aussi, non?
En partie, certainement. Ouais. Mais je crois pas qu'on puisse en faire une généralité. Je crois que les astronautes ont quand même une certaine solidité psychologique. Je crois pas qu'il puisse y avoir de relation de cause à effet entre l'expérience spatiale et la dépression.
Bon, le spleen de l'espace, vous l'avez connu, Jean-François Clairvoy, ou pas?
Pas vraiment, parce que je me réjouis d'avoir vécu ce que j'ai vécu. En théorie, je pourrais revoler parce que je suis toujours actif, mais il y a très peu de chance. Et je me sens plus... j'ai le plaisir de transmettre ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est mon devoir. Mais c'est vrai qu'on a une certaine nostalgie. On aimerait revivre cette expérience, notamment la vue de la Terre, dont on tombe amoureux quand on la regarde depuis l'espace.
Oui. Christophe, sur Twitter, on a déjà vu des astronautes courir sur un tapis de course pour entretenir les muscles de leurs jambes. Est-ce que ce serait pas mieux qu'ils fassent des squats?
Les squats, c'est de la musculation.
En fait, le travail de musculation et le travail sur tapis roulant, ça ne sert pas à la même chose. Le travail de musculation sur la machine qui s'appelle Ared, c'est un travail contre résistance qui sert beaucoup à renforcer les os. un petit peu les muscles bien sûr, mais surtout les os, par les stimulations qu'on exerce sur les muscles qui s'insèrent sur les os.
Est-ce qu'on dort bien dans l'espace, Jean-François Clairvoy ?
En moyenne...
Parce qu'on n'a pas de matelas, vous ne dormez pas sur des matelas.
Effectivement, tous les astronautes dorment dans un sac de couchage qui est accroché aux quatre coins, où l'on veut, au plafond ou sur une paroi. Dans le cas des vols de longue durée, chacun a sa petite cabine individuelle. Certains demandent un oreiller qui sert à rien pour l'orientation de la tête, la position, qui reste au même endroit, qu'il y ait l'oreiller ou pas. Mais la sensation de la tête qui presse sur un oreiller, comme à la maison, ça aide certains astronautes à mieux s'endormir. Et ils ont à leur disposition toute une série d'inducteurs de sommeil plus ou moins puissants qui les aident à s'endormir s'ils sont un peu trop excités par la tâche du lendemain qui arrive. Par exemple, je pense à Tim Peake, l'anglais qui vient de faire vendredi sa première sortie dans l'espace. Je pense que la nuit qui a précédé, il a dû y penser avec beaucoup d'excitation. Mais en moyenne, les astronautes dorment un peu moins longtemps que sur Terre, mais finissent par trouver un moyen, enfin, les petites astuces qui font qu'ils dorment bien.
Histoire de la conquête spatiale, c'est chez Vuibert, donc ouvrage que vous avez chroniqué ensemble, Jean-François Clairvoy et Franck Léo, donc sur toutes les grandes étapes des vols habités, et puis aussi cet autre ouvrage, toujours chez Vuibert, Franck Léo, voler en apesanteur, parce qu'on peut le faire, un rêve désormais possible, moyennant quand même quelques euros pour tester l'Airbus 0G. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans La Tête au Carré.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec Le Supplément, Sciences et médecine du monde.
La chronique improbable de Pierre Barthélémy. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Le cas incroyable de l'homme qui toussait de l'urine, puisque aujourd'hui vous nous parlez d'une étude parue il y a près d'un siècle.
Oui, en 1923 très exactement, dans le journal néerlandais de médecine. Mais au lieu de vous faire le compte-rendu de cette étude, je vais vous en raconter la genèse. C'est l'histoire d'étudiants en médecine qui ont fini leur révision avant les examens et visiblement ils s'ennuient un peu et comme vous le savez, l'oisiveté est mère de toutes les âneries. Comme ils sont sur leur lancée médicale, ils se mettent ainsi à imaginer des pathologies plus ou moins grotesques. L'un d'eux émet ainsi l'idée d'un homme dont un des deux reins s'est formé non pas dans l'abdomen, mais plus haut dans le thorax. Alors un autre étudiant enchaîne et se dit que si jamais cet homme souffrait d'une infection pulmonaire, elle pourrait toucher le rein mal placé. Et un dernier étudiant conclut que si ce malade existait vraiment, il finirait par tousser de l'urine.
Voilà, donc ça c'est quand même du grand n'importe quoi. Et ça a été publié dans une revue scientifique.
Oui, mais ça n'a pas été simple, il a fallu ruser. C'est une vraie blague de carabin et nos carabins comprennent très vite qu'il est hors de question que le cas en question justement vienne des Pays-Bas car il serait vite démasqué. Mais heureusement pour l'époque, les Pays-Bas comme la France avaient de lointaines colonies. Les Indes orientales néerlandaises qui s'appellent l'Indonésie aujourd'hui. Ils écrivent donc une étude sous le nom d'un médecin fictif en poste en Indonésie. Dans cet article, on voit l'arrivée à l'hôpital d'un homme doté d'un seul rein, d'un seul testicule et dont la moitié du corps présente des caractéristiques féminines. Il souffre d'une pneumonie, il se met à tousser de grandes quantités d'un liquide qui ressemble à de l'urine et qui en a même l'odeur. Il meurt peu après et l'autopsie montre dans son thorax la présence d'un rein inattendu de 15 cm de long en forme de saucisse.
Bien sûr, oui.
Et voilà, donc l'article est envoyé en Indonésie avec la consigne de le renvoyer depuis là-bas au journal néerlandais de médecine.
Et là, Pierre, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe qu'en fait, aucun des farceurs n'avait imaginé que la revue tomberait dans le panneau. Et ce, pour plusieurs raisons. Le test effectué sur l'urine était bidon. Les caractéristiques féminines du patient sont effectivement du grand n'importe quoi, l'auteur n'existe pas, etc. Donc, après s'être bien amusé, les étudiants oublient leur malheureux patient indonésien et sa toux au pipi. Mais ils oublient aussi le principe du « plus c'est gros, plus ça passe ». La revue ne se méfie pas et elle publie ce cas d'école trop beau pour être vrai. Il faudra attendre 2003, soit 80 ans, pour que le journal corrige son erreur, ce qui en fait probablement à ce jour la plus lente rétractation de toute l'histoire des sciences.
Qui évidemment ne vous a pas échappé. On retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort donc aujourd'hui. Pierre, qu'est-ce qu'il y a d'autre au menu du supplément aujourd'hui ?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré au retour des savants baroudeurs, les saventuriers. Les grandes expéditions scientifiques, il n'y a pas que dans l'espace, sont de retour, comme par exemple les voyages océanographiques de la goélette Tara. C'est une manière de faire de la science autrement et aussi de faire rêver de science.
Voilà, Cahiers Sciences et Médecine, notre partenaire avec La Tête au Carré. Merci Pierre. Chronique improbable dès la semaine prochaine. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Villard.
Affaire sensible, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
De l'Angola Gate, plongée au cœur d'un trafic d'armes et d'une affaire d'État, une affaire qui court de 1993 à 2011. Et notre invité, ce sera Karl Lasquet, journaliste à Mediapart.
À tout à l'heure.